Ce podcast du OFF 2018 vous est offert par la Maïf, assureur du Festival d'Avignon.
Osmose. Osmose Radio.
La web radio du OFF.
Vous apprendrez bien vite qu'au théâtre, le meilleur se passe souvent en coulisses.
Être ou ne pas être au Festival d'Avignon, c'est la question qu'on peut se poser encore une fois.
Un œil en coulisses, l'émission qui débauche les artistes et les déloge le temps d'une heure.
Dirty Old Town, Dirty Old Town. Et là, on va parler de Dirty Old Man dans la pièce qui nous amène, qui vous amène aussi, chers amis, dans Un œil en coulisses sur Osmose Radio, avec cette petite balade irlandaise que j'interprétais de ma petite voix faiblarde. Mais quand vous écoutez des chanteurs de ce beau petit pays lointain, c'en est tout autre. Et notamment, bah, vous aurez une petite idée des ambiances de ce pays-là, de l'ambiance du monde paysan de ce pays-là qui a inspiré tant et tant d'artistes encore aujourd'hui dans le spectacle que je vous propose d'aborder aujourd'hui sur Osmose Radio, le baladin du monde occidental, pour lesquels je reçois la compagnie Mireno Théâtre. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Vu qu'ils sont un petit peu nombreux, qu'on manque un poil de micro, donc ça va être un petit peu les chaises musicales ou comme chez le dentiste, ils vont se passer les micros l'un après l'autre. Et alors c'est à 12h50 chaque jour à l'Archipel Théâtre, c'est rue du Rempart de Loul, le baladin du monde occidental qui a été mis en scène par vous, Patrick Alloin. Alors, vous venez du théâtre contemporain. C'est une adaptation que vous avez faite en écriture contemporaine de ce texte de John Milton Siege. Vous nous en direz un petit peu plus sur cet homme-là parce qu'il est relativement inconnu. Et c'est une première à Avignon pour le Festival OFF 2018. Pourtant, vous-même, vous n'êtes pas un nouveau venu au Festival OFF.
Alors, il y a plusieurs questions.
Je suis spécialiste pour faire une synthèse de questions.
C'est la troisième fois
que
moi je viens au festival. C'est la deuxième fois que je viens avec ma compagnie, le Mireno Théâtre, dont j'étais venu il y a 2 ans avec les Caprices de Marianne au Théâtre de l'Arrache-Cœur. Voilà, et donc cette année avec le baladin du monde occidental. John Millington Synge, donc l'auteur de la pièce. Donc c'est un Irlandais qui est mort au tout début du XXe siècle, en 1909, il me semble, quelque chose comme ça, pas longtemps après la création du baladin du monde occidental.
Un contemporain de James Joyce. Qui pourrait expliquer, si je tenais à ce que vous parliez un petit peu de cet homme-là, c'est parce que là encore au Festival OFF cette année, on a beaucoup, beaucoup de spectacles inspirés de James Joyce, que ce soit Ulysse, que ce soit Molly et j'en passe. Mmh. Alors du coup, c'est vrai qu'un autre auteur irlandais contemporain qui plus l'est de Oscar Wilde et James Joyce, qui sont quand même deux figures majeures de la littérature contemporaine irlandaise, eh bien c'est une découverte. Et pour ma part, je vous avoue très volontiers que John Millington Synge, je ne connaissais pas du tout. Voilà. Et vous nous expliquerez un petit peu plus tard comment vous-même vous avez découvert cet auteur-là et ce texte-là. Et en fait, la compagnie Mireno, vous l'avez créée il y a quelques années, c'est relativement récent.
Elle a été créée en 2012. La première pièce qui a été montée, c'est en 2014, c'était Lilium de Ferenc Molnár, qui est d'ailleurs un contemporain de Synge. C'était à peu près la même époque de création.
D'accord.
Ah, j'aime bien ce théâtre, ce grand théâtre de troupes du début du XXe.
C'est une période qui vous tient à cœur, oui.
Oui, tout à fait. Et c'est des pièces qui, au début du XXe siècle, étaient montées dans des théâtres parisiens avec plein de figurants. Dans le baladin, il y a énormément de monde. Normalement, nous, on a réduit ça à 8 comédiens, mais voilà. Après, on a monté La Seconde Surprise de l'Amour de Marivaux, et puis Les Caprices de Marianne, Huckleberry Finn, d'après Mark Twain. Enfin, on était à un rythme d'une création par an. Puis là, avec le baladin, on va essayer de se balader un petit peu plus longtemps. Donc voilà.
D'accord, une création que vous allez promener en quelque sorte avec elle, ce baladin, un petit peu plus. Alors à chaque fois, il y a quand même une constante dans les thèmes, avec des spectacles pourtant a priori assez différents, Huckleberry Finn ou Marivaux ou le baladin du monde occidental. À chaque fois, ce sont quand même des personnages populaires qui ressentent des émotions fortes, j'ai l'impression. C'est ce que j'ai ressenti en filigrane dans le choix de vos travaux.
Ouais. J'aime bien le grand répertoire, j'aime bien ce qu'on appelle les grands auteurs, voilà. Mais donc les grandes figures en fait, des figures archétypes, des figures magnifiques, tout ça, des grands rapports de force. Voilà, c'est vrai qu'avec le baladin, on a un personnage assez fort de jeune homme qui a commis un meurtre sanglant, qui a tué son père à coups de bêche et qui arrive dans un village et qui fuit la police. Et aux villageois, il explique son acte. Et les villageois, contre toute attente, s'ennuient beaucoup, boivent beaucoup et ils vont trouver ce jeune homme magnifique. Enfin, ils vont penser que cet acte, c'est extraordinaire. Voilà.
Ils s'ennuient beaucoup, ils boivent beaucoup et ils font des meurtres pour s'amuser un peu. Ça me rappelle mon enfance en Picardie. Mais là, en l'occurrence, ça se passe en Irlande. Alors, du coup, vous nous expliquez que ce texte, en fait, le baladin du monde occidental, et l'auteur John Millington Synge, en fait, vous n'avez pas tant découvert l'auteur puis le texte, mais ça a été plutôt l'inverse.
Ouais. En fait, dans ma famille, j'ai une tante qui est angliciste, qui est spécialiste de l'Irlande. Et puis voilà, c'est dans une discussion comme ça qu'elle m'a parlé de cette histoire de criminel qui est célébré en héros et puis qui finalement rechute, etc. L'histoire m'a beaucoup frappé. C'était assez énorme, en fait. Et donc, c'est comme ça que je me suis intéressé à la pièce. J'ai compris bien après quels en étaient vraiment les partis pris. Synge s'intéresse beaucoup au milieu paysan, mais il s'intéresse surtout à une façon de parler. Du langage, il y a un langage qui est à la fois très truculent avec des expressions très spécifiques et puis en même temps très très poétique, voilà. Et ça c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est l'aspect tragique burlesque de cette histoire. Voilà, c'est sur le fond une pièce sur la quête de l'identité. Ce jeune homme va voir tous les regards évoluer sur lui au fur et à mesure que l'action avance. On le prend pour un héros alors qu'il a tué un homme. Finalement, on n'est plus sûr de ça, donc ça n'est plus un héros. Puis finalement, il veut refaire la chose et puis ça devient... C'est toujours plus un héros. Enfin, voilà, c'est vraiment cette histoire de type qui voyage à travers le regard des autres et qui va essayer de se trouver lui-même.
Non, il croit que les valeurs sont inversées alors qu'en fait, les valeurs sont équivoques. Et c'est un petit peu...
pire que ça, il ne sait pas du tout où il est, il ne sait pas qui il est. Et donc, les valeurs, c'est quelque chose qui ne lui parle pas forcément, et c'est petit à petit que ça va se construire en lui. Voilà.
Mais de toute façon, il n'y a plus d'idéaux sous la mitraille, et il n'y a plus de valeurs morales qui tiennent quand on est tenaillé par la faim. Et la faim, bah, Dieu sait que les Irlandais l'ont subi durement durant cette seconde moitié du 19e siècle. Et pour incarner tous ces personnages, cette foison de personnages sur scène, eh bien, il y a tous les membres de votre compagnie, donc quatre vous accompagnent ce soir. Alors, on va commencer par vous, Jérémy Branger, excusez-moi, je ne voulais pas écorcher votre nom. Vous incarnez le personnage principal. En fait, de cette pièce, Christopher Christie Mahon. Alors, comment vous avez été amené à incarner ce personnage dont on peut dire qu'il est complètement paumé?
Oui, c'est vrai qu'il est un peu paumé. C'est vrai qu'il est pas mal paumé, ce gars-là. Il est même totalement tétanisé, renfrogné. Il arrive, on le voit débarquer. On le voit débarquer après avoir marché 10 jours dans la forêt. Plein de sang, plein de terre, complètement tétanisé sur lui-même. Et c'est assez fou de voir en fait, qu'il réagit en fonction de ce que lui donnent les gens. C'est-à-dire qu'il vivait avec une famille qu'il, entre guillemets, le martyrisait, d'après ses dires. Et du coup, il n'était pas capable de regarder les gens en face, pas capable de se cacher dès que quelqu'un passait. Et puis, il arrive là, dès qu'on lui dit qu'il est extraordinaire, c'est extraordinaire. Ce qu'il a fait, du coup, ce gamin, du coup, il est extraordinaire. Et finalement... tout ce qu'il fait à la suite de ça rappelle ça, quoi. Si les filles lui disent qu'il est beau, d'un seul coup, il est beau. Et si on lui dit qu'il est super fort, il va devenir super fort. Et donc, il peut monter très, 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 très haut et redescendre très, très, très bas.
Aussi. Et très violemment, sans doute.
Et surtout très violemment, ouais.
Et c'est parmi les gens qui vous accompagnent sur scène. Alors, je vais tous vous laisser présenter un petit peu le rôle que vous incarnez, notamment vous, Marianne Favreau. Vous incarnez Peggy Flaherty.
Oui, c'est ça.
Alors, quelle est sa relation au personnage principal?
Sa relation, on va dire que c'est l'histoire d'amour, en fait. Elle, c'est la tenancière de la taverne où tout se passe. En fait, toute la pièce a lieu dans cette taverne. Et en fait, elle tombe éperdument amoureuse de Christy dès qu'il arrive. Voilà,
ils ont c'est l'outsider, le beau gosse qui vient semer un petit peu le trouble fête dans le village, quoi.
C'est ça. En fait, elle est promise à un gars du village. Mais qui pour elle, en fait, c'est une fille. Ce que j'aime bien de ce personnage, c'est que c'est pas la typique jeune première fragile, fleur bleue. Au contraire, elle a été élevée sans mère avec un père qui se bourre la gueule avec tous les gars du village. Enfin, elle est bien habituée à savoir gérer les bonhommes.
Elle est un peu en phase avec du coup Christopher, quoi.
Dans un certain sens, oui. Et du coup, elle est promise à un mec qu'elle trouve nul, pas courageux, tout ça. Et donc, quand elle voit débarquer ce jeune homme, il est tellement différent à tout ce qu'elle est habituée. Il l'a fait tellement rêver parce qu'aussi, il a un parler. Il a quelque chose de poète. C'est pour ça aussi, ça s'appelle le baladin. C'est parce qu'il a quelque chose d'hyper séduisant quand il raconte son histoire. Et elle, en fait, elle tombe l'armure finalement avec lui. Et après, je vais pas raconter toute la suite.
Ne nous en dites pas trop, qu'on ait encore envie d'aller voir le spectacle.
Mais voilà.
Et Cyril Ripoll, quant à vous, vous incarnez Philip Cullen, le vieux Mahon. Alors, donc un personnage un petit peu de patriarche dans le village, j'ai l'impression.
Oui, alors...
Patriarche décadent, peut-être.
Alors, est-ce que je dois dévoiler
On va essayer d'en dire le moins possible.
Voilà. Alors, je suis Philip Cullen.
Comme vous censure le metteur en scène, j'y crois pas.
C'est terrible que de voir ses propres fils tourner voyous, vous contre. usé que vous avez été à les corriger, les gronder et Dieu sait quoi d'autre. Mais je ne dirais que ça. Sinon, Philly Cullen, c'est l'ami du pub du père de Peggy, hein, Michael Flaherty, un bel ivrogne.
D'accord.
Un jouissif, un gars qui aime l'alcool et quand il faut boire, eh ben, il est le premier partant.
À la décharge des Irlandais de ces époques-là, il faut savoir qu'ils avaient plus souvent à disposition de l'agneau que des pommes de terre pour se sustenter. Donc c'était peut-être aussi un moyen de compenser.
De la clandestine.
Voilà, je ne veux excuser aucun comportement abusif, mais tout de même, il faut se remettre dans leur époque et à leur place. Et quant à vous, Philippe Pingui, vous incarnez Jimmy Farrell.
Alors Jimmy Farrell, bon sang de gloire de Dieu, c'est l'autre alcoolo de la bande. En fait, c'est-à-dire que il est lui aussi l'un des amis de Philly Cullen et de Michael James Flaherty. Et tous les trois, ils forment une bande de joyeux lurons qui sont respectueux d'à peu près rien, sinon du whisky et de la bonne bière. Voilà. Donc mais après, dans la mise en scène de Patrick, il y a un élément supplémentaire, c'est qu'il transpose, ça je crois qu'on peut le dire, il transpose l'action dans un pub irlandais de nos jours. Du coup, il actualise cette pièce et du coup, ça rend le propos assez actuel, je crois. Et du coup, il a introduit aussi des chansons. Et ce que ne disent pas Jérémy et Marianne, c'est qu'en fait, c'est des super musiciens. Et du coup, ils chantent ces chansons. Ils ont composé toutes les musiques du spectacle pour raconter cette histoire irlandaise. Voilà. Et moi, du coup, en plus de Jimmy Farrell, je fais une sorte de présentateur un peu de ce pub pour raconter cette histoire.
D'accord. Vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, parce que je fais une petite parenthèse, ce sont des musiciens, ils ont apporté leurs instruments.
Non,
en fait, les conditions du direct sur ce plateau radio, en fait, ne nous permettent pas de sonoriser correctement, comme ils mériteraient de l'être en tout cas, les instruments avec lesquels vous êtes venus dans votre escarcelle. Donc hélas, j'inviterai les gens à aller vous observer parader dans les rues encore ce soir, ou alors allez-vous directement vous voir à l'Archipel Théâtre à 12h50 tous les jours jusqu'au 29 juillet. Revenons-en à vous, Patrick Halluin, et à ce texte de John Millington que vous avez adapté. Alors, vous disiez que votre tante, était angliciste,
oui,
que ce texte était daté du début du XXe siècle, un des derniers textes d'ailleurs de l'auteur, et vous précisez quand même dans vos documents et le dossier de presse, vous précisez traduction française Françoise Morvan. Est-ce à dire que c'est une traduction différente de la traduction initiale du début du XXe siècle?
Alors, elle a été traduite par plusieurs personnes depuis sa création en France, ça devait être dans les années 30.
D'accord.
Le titre, Le baladin du monde occidental, est le titre français initial. En vérité, dans la traduction de Françoise Morvan, on parle du beau parleur des terres de l'Ouest, qui est un titre plus fidèle au titre original, qui est The Playboy from the Western World.
Vous avez anticipé ma prochaine question, exactement, mais bien joué.
Voilà, donc pourquoi Le baladin du monde occidental? J'imagine que c'était un titre plus universel pour amener les gens à découvrir la pièce. Le beau parleur des terres de l'Ouest évoque davantage le contenu précis de la pièce. Françoise Morvan a vraiment voulu être le plus littéral possible. Et initialement, sur l'affiche, on avait mis adaptation Françoise Morvan, et elle s'est manifestée pour dire que non, ça n'était pas une adaptation, c'était une traduction. Voilà. Donc elle a vraiment recherché dans, on va dire, le breton de la fin du 19e, puisque c'est là qu'il y a le plus de correspondance avec le langage paysan irlandais, tout ce qu'il pouvait y avoir comme expression pour être le plus proche possible du texte initial. Donc ça donne des choses à la fois très drôles, très pittoresques, parfois des mots employé à l'envers, etc. Et en même temps, c'est très poétique. Mais on a décidé de travailler, comme on a transposé la pièce aujourd'hui, on a vraiment essayé de trouver un langage dans le jeu des comédiens très direct, très concret, ce qui fait que ça nous parle quand même très simplement. On a vraiment... voilà. Et donc là où il y a eu adaptation, c'est qu'on a donc transposé la pièce. On a un peu coupé, on a ajouté des chansons, parce que je voulais accentuer l'idée d'une fable. On est dans un pub irlandais aujourd'hui, on y chante des chansons, on y boit de la bière, et puis d'un seul coup, on va se raconter une histoire complètement incroyable, qui est l'histoire de Christy Mahon. Ce que Philippe ne précise pas, parce qu'il a donc présenté les musiciens, c'est que c'est lui qui a écrit les paroles des chansons. Donc musique et chansons ont été ajoutées par la compagnie et non pas dans le texte original.
D'accord. Voilà. Et donc là, ben, dans le hall du nouveau hôtel, qui a la gentillesse de nous accueillir, nous, Osmose Radio, eh bien, on est un petit peu dans l'ambiance d'un peuple irlandais parce qu'il y a beaucoup de monde qui passe, qui s'amuse, qui discute, qui s'esclave et qui sort profiter un petit peu du festival. À l'occasion, comme en Irlande, quand il ne pleut pas, ben, on sort profiter un petit peu du soleil, au moins pendant 2-3 minutes. Et donc, on rentre après pour reboire une bière. Et si j'ouvre un petit aparté quand même, c'est que tout à l'heure, vous parliez du breton dont elle s'est inspirée. Juste pour l'anecdote, l'irlandais, le gaélique irlandais et le breton sont deux langues celtiques de la même famille, ce pourquoi on peut retrouver des correspondances alors même qu'il y a une mer qui sépare les deux territoires. Je ferme cette parenthèse. Et mais en attendant, c'est vrai que pour comprendre les cultures populaires, il faut aller parfois chercher dans les patois et les différentes langues des pays qu'on va se concerner. Et du coup, cette adaptation, vous l'avez adaptée dans un environnement contemporain, en fait, comme votre collègue le précisait tout à l'heure, aujourd'hui. Et du coup, les problématiques que vous abordez, qui sont en fait un triptyque, à savoir quelle est l'image de soi telle qu'on peut se l'imaginer, de quelle manière la société, en faussant cette image de soi, a tendance à ériger des idoles pour avoir le plaisir jouissif et un peu pervers de les détruire. Et enfin, quand même, on reste sur une histoire irlandaise, tout ça prend des allures de fable. Et comment vous avez adapté un petit peu ces trois éléments du texte initial dans cette adaptation, dans un environnement contemporain, quand bien même ça reste l'environnement intemporel de l'Irlande éternelle, entre guillemets?
Oui, parce qu'en fait, on n'a pas redéfini les personnages, on a juste essayé de trouver un univers visuel, une atmosphère dans laquelle cette histoire pourrait exister dans le monde d'aujourd'hui. Donc, je suis allé regarder plutôt vers le cinéma que vers le théâtre. J'aime beaucoup les films de Mike Lee. Alors, on n'est pas en Irlande, mais on est dans une Angleterre très populaire, l'Angleterre du Nord. Et donc, il y a ces images de pubs un peu grisouilles. En même temps, on a des gros personnages patibulaires, etc. On est allé se documenter un peu sur le monde paysan d'aujourd'hui. Donc, on a une idée du monde paysan du 19e très, très caractéristique. Voilà, le paysan d'aujourd'hui va s'habiller pas très différemment d'autres gens d'aujourd'hui. Il n'y a pas un costume de paysan dans le monde d'aujourd'hui. Donc, ça fait qu'il y a une imagerie... presque urbaine en fait, de gens en pantalon, veste. Voilà. On a quand même les casquettes irlandaises parce qu'on est quand même dans un village reculé d'Irlande avec ces traditions-là. Pour le reste, Peggy avait une jupe en jean, elle a un t-shirt de hard rock, Christy Mahon avec un blouson très contemporain. Et vraiment, c'est, en termes de couleur, de texture, de matière, on est allé vers ces films-là, vers cette imagerie-là.
Et puis, bien que j'ai beaucoup d'admiration pour la culture irlandaise, je ne perds jamais de vue que c'est un pays où le divorce est autorisé depuis seulement 20 ans et où la loi sur l'avortement faisait énormément de polémique encore l'an dernier. Donc, à certains égards, ils sont assez arriérés pour qu'on puisse se dire que ça n'engage que moi ce que je dis là, attention, qu'on puisse dire qu'effectivement, cette Irlande intemporelle est parfois un petit peu trop intemporelle, justement.
Alors, je vais quand même préciser quelque chose là-dessus. Singu était quelqu'un qui avait une façon de parler des paysans. Il a été presque interdit à l'époque. Que le baladin fait scandale parce qu'il y a quand même question de meurtre parfaitement assumé par tout le monde, de bière clandestine.
Moralement,
sa vision était assez immorale. Donc on n'est pas du tout dans une image de l'Irlande coincée ou rétrograde. Non, pas du tout. Au contraire, c'est assez.
Attendez, c'était pas mon propos, attention. Ce que je disais, c'était que le cadre dans lequel se situe l'action, lui, a ce côté intemporel qui est parfois un petit peu anxiogène.
Après, oui, parce qu'il y a par exemple énormément question de la religion, du poids de la religion, du poids de l'hiérarchie familiale. Peggy ne choisit pas son fiancé. Le fiancé de Peggy ne peut pas rester dans la même pièce avec elle parce que le curé l'interdit, parce que Dieu n'accepterait pas, etc. Donc, on a quand même le poids d'une société super, très, très, très coincée. Ça, c'est sûr.
Après, je ne veux pas faire de psychologie de comptoir, mais on n'a pas attendu Freud pour que le parricide soit un tabou, c'est là encore intemporel, depuis les premières sociétés humaines. Mais néanmoins, dans le contexte de l'époque, c'était des problématiques auxquelles on s'intéressait d'un autre point de vue aussi. Peut-être que John Millington Synge a été aussi inspiré par ça. Ces problématiques du temps, comment on conçoit la relation au père dans une société dont les mœurs se libéralisent. Je reviens à Oscar Wilde, qui lui-même, c'était en Angleterre, en l'occurrence, qui écrivait ses romans et ses nouvelles, mais qui prenait un peu des libertés par rapport à ses morales parfois pesantes.
Le rapport au père, Cyril il disait hier en pleine conversation quelque chose de tout à fait intéressant sur je vais le laisser parler sur la place du fils et du père dans cette histoire.
Non, simplement sur sur les paysans, en fait, c'est exactement la même chose qui se passait en France. Les enfants devaient travailler dès qu'ils étaient en âge de travailler, à 6, 7, 8, 9, 10 ans. Ils étaient plus esclaves qu'autre chose. Ils n'allaient ni à l'école, ni rien du tout.
Bah, l'école républicaine, c'était 1880, et c'est à partir de là qu'on les a tirés.
On est d'accord. Et donc les paysans, oui, les enfants, voyaient leur père comme des monstres, finalement. Il se trouve que là... C'est un juste retour de bâton qui se passe dans la pièce.
Non, et puis il n'y a pas besoin de remonter jusqu'au début du XXe siècle. Vous savez, je vous parlais tout à l'heure de mon enfance en Bretagne, en Picardie. J'en ai vu de belles. Et voilà, donc tout ça pour dire qu'effectivement, bah, ces problématiques-là sont un petit peu. Ne sont pas faussées par le prisme du temps. Par contre, ce qui est faussé par le prisme de la société, c'est l'image qu'on peut avoir de soi. Et aussi les valeurs morales qui sont un petit peu. Moi, tout à l'heure, je disais équivoque. Vous disiez que c'était encore pire que ça.
Équivoque.
Ouais, moi je dis que les valeurs morales peuvent être un peu équivoques pour le personnage principal, Christy Mahone, ouais. Qui en fait va s'apercevoir qu'elles sont pas forcément inversées, elles sont carrément équivoques, voire encore pire.
C'est difficile d'en dire plus sans révéler ce qui se passe. Ah,
j'ai essayé de vous tirer les verres du nez. Vous êtes témoins, les auditeurs d'Osmose.
Dans la pièce, disons qu'on a essayé d'aborder le personnage. C'est, me concernant, il s'agit pas du tout d'un personnage de schizophrène, mais on a vraiment essayé de traiter le personnage sous l'angle du regard des autres. Et donc, le regard des autres change tout le temps et il change de personnalité en fonction de ce qui se passe, ce qui en fait un personnage complètement imprévisible et complètement borderline. Voilà. C'est à des fins potentiellement comiques, c'est parfois très, très drôle et puis ça devient tragique à un moment donné. Voilà. Pour le reste... Je ne vais pas pousser trop loin.
On peut faire des comparaisons. Non, est-ce qu'il y a un peu Dostoïevski hein, qui avait un petit peu les mêmes problématiques dans ses travaux.
Mais ce qui rend très drôle, justement, toute cette action, toute cette histoire, c'est justement par rapport, pour revenir au poids de la religion, c'est qu'ils n'arrêtent pas de parler de Dieu et en fait, ils n'arrêtent pas de faire exactement le contraire des préceptes de la Bible ou de l'Évangile. Hein, on est dans un monde hyper catholique, coincé, etc. Mais je ne sais pas si c'est le poids de la boisson qui les aide à s'affranchir de tout ça, mais en tout cas, ils font exactement le contraire de ce qu'ils professent. Et c'est ça qui devient aussi souvent très drôle, quoi.
Voilà. Mais vous savez que la meilleure résidu diable...
Tu ne tireras point, c'est... mais ils n'arrêtent pas de se tuer. Et tu ne boiras, tu ne voleras point, mais bon, ils n'arrêtent pas de se castagner. Enfin bon, il y a beaucoup de choses comme ça, quand même.
Comme disait Baudelaire, la meilleure ruse du diable, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. En l'occurrence, là, il existe bel et bien bah, dans ces environnements que vous décrivez, dans ce titre, au nom un petit peu hiératique, le baladin du monde occidental, qui nous évoque un petit peu les fables irlandaises médiévales. Et en l'occurrence, on est bien dans une Irlande contemporaine, voire plus que contemporaine. C'est à 12h50 à l'Archipel Théâtre. Comment s'est passé ce début de festival pour vous ?
Eh bien, bien, on est arrivé avec un spectacle. Ce n'est pas le premier spectacle de la compagnie qui se présente à Avignon, mais le Baladin était une création pour Avignon.
Parlez bien près du micro, oui.
On l'a joué un tout petit peu à Paris avant, donc pour nous, c'était l'occasion vraiment de le présenter vraiment au large public. Ça se passe très bien pour l'instant. Voilà, on a des réactions très, très enthousiastes, vraiment, parce que les gens rentrent bien dans l'univers. C'est un univers très spécifique, il faut adhérer. C'est à la fois très drôle, truculent, très coloré et en même temps voilà, très, très, très noir.
On n'a perdu aucun comédien, voilà. Toute l'équipe est au complet, tout va bien.
Aucun comédien, aucun acteur n'a été molesté pendant, malgré les problématiques violentes et difficiles.
On s'est bien entraîné à Paris avant, donc tout ce qu'on pouvait casser, se casser, etc. On l'a fait avant. À Avignon, tout le monde est en pleine forme et encore aujourd'hui, c'est le cas.
Et de quelle manière les gens sont séduits ou attirés par l'aspect culture irlandaise du spectacle, justement, notamment par la musique que vous précisez.
Alors il y a l'aspect musical. Moi, je voulais à tout prix éviter que ce soit folklorique. J'ai rien contre.
Parce que justement, des gens peuvent faire la confusion, c'est pour ça que je vous pose la question.
Non. Jérémy et Marianne, qui ont fait les chansons, sont des musiciens qui travaillent dans tout autre domaine. Ils ne sont pas spécialistes de l'Irlande. Ils ont fait des recherches. Hein. Enfin, ils pourront en parler après. Ils ont fait des recherches musicales, etc., pour créer. Mais c'est d'inspiration irlandaise pour moi. Donc, on retrouve des harmonies, etc., des instruments.
Vous ne reprenez pas d'air traditionnel. Ce sont des compositions.
Non, voilà. Ce sont vraiment des compositions. Donc, c'est des vraies ballades, c'est des vrais airs. Remarque, la musique irlandaise aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que on est dans un mix entre la culture irlandaise et quelque chose de plus intemporel. Voilà. Et c'est vrai que la musique permet vraiment émotivement au spectateur de rentrer dans l'histoire. Mais après, il y a surtout l'impact du postulat de départ qui est vraiment extrêmement saisissant. Et c'est vrai que les gens sortent très surpris d'avoir assisté à ça et d'en avoir autant ri. Voilà.
Très bien. Eh bien, la compagnie Mireno, quelqu'un pour le beau de la fin ?
Marianne,
peut-être. Vas-y, Béguine, c'est la seule fille, alors il la pousse en avant.
mot de la fin,
c'est-à-dire parler un petit peu des compositions, voilà.
Oui, eh bien ça. Alors Jérémy et moi, en fait, on est habitués à travailler ensemble car on joue dans un même groupe de musique. Mm-hmm. Donc déjà, on se connaît musicalement. Et comme a dit Patrick, on n'était pas du tout spécialiste en musique irlandaise, mais on s'est vraiment plongé dedans. On a fait une grosse recherche, a passé parfois des week-ends à écouter que ça. À la fin, on n'en pouvait plus. Mais c'était super parce que du coup, ça nous a énormément inspiré pour créer des mélodies qui font irlandaise traditionnelle. Et en même temps, c'est pas vraiment. Enfin, c'est pas copié de quelque chose
c'est
qui existe déjà.
C'est pas du copier-coller.
Non. Et en plus, on utilise des instruments qui sont pas forcément. Par exemple, il y a une des chansons qui est la chanson centrale d'amour, on va dire, où on utilise ukulélé et violon. Bon, le violon, certes,
ukulélé, c'est
ça
pas
fait.
Vraiment
mais ouais, c'est ça. Mais vu qu'on a utilisé des accords, des harmonies et même des harmonies dans les deuxièmes voix, qui sont assez atypiques par rapport à ce qu'on peut entendre dans la chanson française ou autre, alors que ça fait plus justement traditionnel, mm-hmm. quelque part, bah ça marche quoi. Peut-être qu'il veut dire quelque chose.
Ouais, ça fait effectivement, on peut réussir. C'est justement ça qui est surprenant et super agréable, c'est que effectivement, le ukulélé peut être, il est toujours considéré comme un jouet à l'heure actuelle. Moi, je le défends corps et âme pour qu'il soit beaucoup plus que ça. Et effectivement, c'est des questions d'intervalle entre les notes, que ce soit par rapport entre une voix chantée ou par rapport aux mélodies choisies dans les instruments. Peu importe l'instrument, en fait, ça pourra très bien faire irlandais. Et jusqu'à maintenant, c'est vrai que ça marche bien. On a ce truc-là de ukulélé violon sur une chanson à deux. Il y a accordéon violon
oui,
avec
alors que
plusieurs personnes.
C'est ça, l'accordéon, c'est pas du tout non plus traditionnel irlandais. Mais par exemple, en utilisant des notes pédales, c'est ce qui fait Jérémy. Mm-hmm. Ça fait un peu comme les notes pédales dans la. Comment ça s'appelle en français la bagpipes
les
cornemuses, voilà.
Ou les vignoux.
Donc ouais. En utilisant parfois, même si c'est pas les bons instruments traditionnels, en utilisant les mêmes techniques, enfin pas techniques, mais
les mêmes approches quoi.
Voilà, bah ça donne cette couleur là en fait.
Mais croyez-le ou non, pour ma part, j'ai déjà entendu de la musique irlandaise jouée au ukulélé. C'était un groupe indonésien qui fait de la musique irlandaise. Ils sont basés à Jakarta, ils assurent comme des bêtes, je vous jure que c'est vrai. Donc voilà, peut-être ça vous inspirera pour un prochain spectacle. En attendant, merci tous les gens de la compagnie Mireno d'être venus nous parler de ce spectacle que vous représentez à 12h50 encore jusqu'à la fin du festival dimanche 29 juillet. Le baladin du monde occidental à l'Archipel Théâtre, rue du Rempart de Loul. On va se quitter, chers amis, restez sur Osmose Radio.